tout pour investir, le coach.
C'est la coach ce vendredi. Nathalie Benatia est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Avec nous ce matin pour zoomer sur ce qu'on appelle les indices de confiance des ménages. Bon, c'est un indice, ce sont des chiffres qui sont publiés régulièrement, vous allez nous raconter, notamment cette semaine et pour la France. Mais bon, comme on le fait avec vous, on aime bien retourner à l'origine de ces indices, de ces chiffres qu'on surveille dans l'économie. Vous allez nous raconter ce que c'est.
Alors, ce que ce n'est pas, déjà, ce ne sont pas des indices de bonheur. On ne demande pas aux gens, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous en êtes bien. On leur pose une série de questions sur leur situation financière, leur intention d'achat, de gros achats, leur intention d'épargner, leur perception sur l'inflation, leur perception sur le chômage, en temps réel, si j'ose dire, et puis en perspective. Et tout ça nous donne un indice.
C'est une sorte de sondage auprès des ménages. Absolument. Comment sont sélectionnés ces ménages et par qui? Qui fabrique ces indices?
Alors, en général, en France, c'est l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc une institution qui est habituée à faire des sondages de nature économique. Il se trouve qu'ils interrogent à peu près 2000 ménages et ils sont sélectionnés selon la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on obtient, enfin on cherche à obtenir et on obtient un échantillon représentatif de la population.
Ça n'est pas un indice du bonheur des Français, vous nous dites, vous nous apprenez ou vous nous rappelez. Ils viennent d'être publiés, ces chiffres, cette semaine. Racontez-nous ce que ça donne chez nous.
Alors, honnêtement, d'habitude, ce sont des chiffres qui ne font pas beaucoup bouger les marchés. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une grosse part de sentiment, malgré tout, hein. Encore plus que quand on interroge les entreprises. Mais malgré tout, ça donne des informations sur alors, la confiance des ménages en France, vous l'avez dit, dans bon nombre de pays, notamment aux États-Unis, on parle de confiance des consommateurs. Mm-mm. C'est peut-être pas la même approche, mais en fait, si les questions sont équivalentes. Et bien, ces indices de confiance nous disent, ils ont été publiés en Belgique, en France, en Allemagne, pour la zone euro et aux États-Unis, que la confiance se stabilise, voire remonte légèrement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, si on creuse dans les différentes sous-composantes, on s'aperçoit que les gens commencent, notamment en France, nous apprend l'INSEE, à vouloir davantage consommer, précisément ces gros achats qui peuvent être de l'électroménager, une voiture, etc. Donc épargner un petit peu moins. On sait qu'en France, on est parmi les champions du taux d'épargne. Et une autre caractéristique de toutes ces enquêtes, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est que les indices n'ont pas retrouvé les niveaux qui prévalaient avant la pandémie.
Alors, dites-nous où on est par rapport au niveau pré-pandémique.
Au niveau pré-pandémique, on est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a deux grandes enquêtes. Il y en a une qui est peu baissée au moment de la pandémie et qui, depuis, est à peu près stable, hein, avec des oscillations. Et une autre qui avait beaucoup, beaucoup baissé et qui est en train péniblement de revenir au niveau d'il y a à peu près 3 ans. Donc, on est malgré tout après la pandémie.
Qu'est-ce que ça dit? On est toujours un petit peu dans la précaution, même au côté États-Unis, on préfère épargner que surconsommer?
Alors, les Américains, non, ils ne préfèrent pas épargner, hein, leur taux d'épargne.
Ont-ils déjà préféré voilà. Épargner?
Leur taux d'épargne est de l'ordre de 4% environ, il est de 17% en France, donc calculé à peu près de la même façon, donc la différence est importante. Ça nous dit qu'il y a malgré tout des hésitations, encore une fois, à se lancer dans des grands projets. Et à contrario, quand on épargne beaucoup, le but, c'est à la fin, normalement, de dépenser, en espérant que ce soit pour dépenser des choses dont on a envie et pas seulement dans l'urgence des choses dont on aurait besoin.
Nathalie, vous êtes macroéconomiste. Quelle est la corrélation, si je puis dire, et excusez-moi si mon propos n'est pas très précis, entre l'indicateur de confiance des ménages et d'autres chiffres qui peuvent concerner ces ménages, par exemple le taux de chômage ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, le cours de bourse? Est-ce qu'il y a des liens comme ça? Est-ce qu'on peut faire des corrélations?
Alors c'est honnêtement, c'est assez difficile, hein. C'est plus un indicateur qui ramène finalement l'économie un peu plus vers les sciences humaines, hein, ce qu'elle est. Mais on peut regarder. Ce qui est intéressant ces dernières années, c'est que les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, a sa propre enquête auprès des ménages. Et donc, elle va concentrer les questions sur que pensez-vous de l'inflation? Pourquoi est-ce que c'est important pour une banque centrale? Eh bien, on revient toujours à la même histoire. Une banque centrale est chargée de ramener l'inflation vers 2%. Et si elle sent, si elle a la preuve ou des indices que les ménages pensent que l'inflation va continuer à augmenter, ça veut dire que ces mêmes ménages, que ces consommateurs vont exiger, demander au moins des hausses de salaire, et ça veut dire que l'inflation risque de s'auto-alimenter. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Auparavant, honnêtement, c'était ces indices de confiance des consommateurs, un indice mineur destiné à alimenter les gros modèles des instituts comme l'INSEE, également donner des renseignements en termes de marketing. Et puis, c'est devenu une partie des informations qui sont utilisées pour la politique monétaire, et c'est important à ce titre.
Vous avez souligné la différence entre cet indicateur aux États-Unis et en France. Déjà, c'est une différence de vocabulaire. En France, on parle de l'indicateur de confiance des ménages. Aux États-Unis, on parle de celui des consommateurs. D'un point de vue de la macroéconomiste que vous êtes, quelle est la différence entre des consommateurs et des ménages?
Alors, c'est un peu de la sémantique. Elle n'est pas énorme. On parle pour un ménage, on parle d'une unité de consommation en France.
Encore plus moche.
On retrouve les mêmes notions, mais malgré tout, la terminologie me semble peut-être pas extrêmement importante, mais en tout cas dire quelque chose de la façon dont on appréhende cet indicateur.
Bon, cet après-midi aux États-Unis, on aura le chiffre de l'inflation PCE. Jérôme Powell va parler, on espère pas trop dans le vide, parce que les marchés sont dans le vide. Qu'est-ce que vous anticipez dans votre équipe de ce qui va être annoncé et de ce que peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, épargnants, investisseurs particuliers, il faudra retenir pour la semaine prochaine?
Alors, ce qu'il faudra retenir pour la semaine prochaine, cet indice, donc c'est une autre mesure de l'inflation qui est censée être privilégiée par la Fed parce qu'elle est normalement un petit peu plus stable.
C'est l'inflation PCE.
Voilà, l'inflation PCE, donc l'inflation sous-jacente. On regarde l'inflation sous-jacente, hors alimentaire et énergie. Et si ça se comporte comme l'indice des prix à la consommation, ça ne devrait pas constituer un choc. D'autant plus que le discours de Jérôme Powell à l'occasion de la précédente réunion de politique monétaire, c'était « on a bien constaté que l'inflation en janvier et février était plus élevée, mais on n'en tire pas des conséquences dramatiques, on continue à imaginer que nous, Banque centrale, on va pouvoir ramener cette inflation vers 2%. » Donc encore une fois, cette statistique qui a été très regardée ces derniers temps, dans un vendredi après-midi où les marchés, enfin vendredi matin aux États-Unis où les marchés vont être fermés, ne devrait pas être trop importante.
Voilà. Les marchés américains qui seront ouverts lundi, contrairement aux marchés européens. Merci beaucoup Nathalie Benatia, macroéconomiste dans l'équipe de BNP Paribas Asset Management, avec nous au décryptage, au coaching sur ces expressions financières qu'on utilise parfois sans forcément les maîtriser ou comprendre exactement leurs origines. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay sur le site et l'application de BFM Business.